Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cet épisode est sponsorisé par Le Bon Coin, spécialiste de la seconde main depuis 15 ans. En permettant d'offrir une seconde vie à votre garde-robe, Le Bon Coin s'engage en faveur d'une mode plus durable. D'ailleurs, si vous aimez chiner des pièces vintage, la plateforme fait sûrement déjà partie de vos réflexes. D'ailleurs, l'année dernière, près de 20 millions d'annonces mode y ont été publiées. Avec Le Bon Coin, une chose est sûre, l'avenir de la mode a du bon. Bonne écoute!
C'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood avec tout le monde.
Tu peux ressembler à un joueur de cartes, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robinson Crusoe, il ressemble à rien, pourtant il est cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Je sais pas.
Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! Pour ce nouvel épisode du podcast de Fashion Gasoil en partenariat avec Le Bon Coin, je reçois un homme qui a fait un pari très audacieux. Créer une marque de jeans sans utiliser de nouvelles ressources. Cet homme audacieux, c'est Uriel Carsanti, qui vient de lancer Annie Jeans en transformant des jeans, enfin des Levi's vintage et autres. Bonjour Uriel.
Bonjour Valérie.
Alors avant de nous présenter ton concept, ça te va, concept audacieux ?
Oui, c'est bien, ça me paraît assez à la hauteur du concept.
Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Alors, j'ai un parcours, comme beaucoup de gens disent, atypique. J'ai commencé par une formation en droit et HEC. J'étais avocat d'affaires pendant quelques années, avant de réaliser que ce n'était pas un métier pour moi.
Je te coupe, mais c'est incroyable le nombre de créateurs, de gens qui créent des super concepts, qui me disent « j'étais avocat, j'ai tout arrêté, ce n'était pas fait pour moi ».
Ouais, je pense que le métier d'avocat est peut-être un métier qui rebute un certain nombre de gens. Moi, dans ma génération, on faisait pas nombreux les gens qui quittaient leur métier pour en faire d'autres, mais je pense que ça se fait de plus en plus, effectivement. Et donc, c'est en 2000 que j'ai intégré l'industrie de la mode et j'ai commencé mon apprentissage dans une jolie maison qui s'appelle Barbara Buy, où j'ai passé 5 ans auprès du président et où j'ai développé beaucoup, où j'ai appris le métier sur le terrain. Et ensuite...
Donc, t'as appris le métier, t'as découvert le secteur de la mode.
J'ai découvert le secteur parce que je connaissais très peu de choses, j'étais un junior, c'était mon premier métier dans la mode et j'ai donc appris le métier au sens où j'ai commencé par les boutiques, par l'apprentissage du client, du produit, de la distribution, de la direction du réseau de boutiques et ensuite du wholesale, pour ensuite arriver progressivement au lancement d'une ligne de maroquinerie et de chaussures avec William Halimi chez Barbara Buy.
Ah oui, t'as fait la base, en fait.
J'ai fait la base. Disons que je trouve l'avantage des PME et des startups, c'est qu'elles permettent à des gens comme moi qui sont en reconversion et qui ne veulent pas forcément rester sur un périmètre d'un métier très focusé. J'avais envie de connaître beaucoup de choses dans la mode avant de m'intéresser et d'évoluer et de me former. J'avais envie d'apprendre tous les métiers. Et ça, c'est un bon apprentissage. La direction générale, en ce sens-là, m'a permis effectivement de voir beaucoup de métiers différents dans l'industrie.
Et alors après ? Après Barbara Buy ?
Au bout de 5 ans, j'ai eu un poste de direction générale à proprement parler, parce que j'étais en adjoint chez Barbara Buy, dans le groupe Zanier, qui n'existe plus, qui est un groupe de mode enfantine, qui s'appelle aujourd'hui Kidilise, et où j'ai dirigé une marque qui s'appelle Jean Bourget, à côté de Catimini, à côté d'IKKS. Et là, c'était une culture industrielle très différente de la mienne, en province. Et ça m'a appris à construire des collections, ça m'a appris à tenir une équipe qui a des cultures différentes dans un atelier dans une industrie où le sourcing et les achats se font de manière très, très différente que ce qu'on connaît à Paris chez les créateurs. Et donc, j'ai appris finalement, d'une certaine manière, l'analyse des ventes, le marketing, et un certain nombre de choses qui tiennent aujourd'hui une collection. Et au bout de 3 ans, j'ai rejoint une maison qui est une pépite et un créateur incroyable qui s'appelle Pierre Hardy. C'était en 2008, un moment difficile puisque la crise était venue et qu'il fallait réparer un certain nombre de dysfonctionnements dans la mode, et notamment chez Pierre, où la performance commerciale n'était pas au top à ce moment-là, comme chez tout le monde. Pierre Hardy est un créateur fantastique qui, je pense, attire énormément de monde et qui a une maison, a une image magnifique. Pour autant, il y avait un vrai travail sur le développement commercial, sur la distribution, sur les produits et sur le cœur de collection qui méritait une performance commerciale plus forte. Ça, j'ai passé 4 ans chez Pierre Hardy. Et à partir de 2012, j'ai quitté Pierre et j'ai réfléchi à mon avenir dans la mode. Et là, il y a eu un passage et une transition forte où je me suis beaucoup inspiré de mes amis ou du milieu autour de moi qui désintermédiaient des métiers comme les lunettes, comme le mobilier. Et je me suis posé la question de la mode, sachant que j'avais pas une fibre qui me poussait à créer ma propre maison avec mon propre nom. C'était pas du tout l'objet égo-créatif.
Égo-créatif, c'est pas mal comme terme. Égo-créatif,
oui, parce qu'il y a finalement dans la création, pour des gens comme moi, mais comme pour tout le monde, il y a toujours un peu d'ego à vouloir soit avoir son nom, soit avoir son propre produit. J'ai essayé depuis longtemps parce que j'ai une conviction et que j'essaye de mettre du sens dans mes projets. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui me poussait à la création. Et c'est vrai que ce qui me pousse plus à la création, c'est d'arriver à rencontrer le besoin du client, de le comprendre ou éventuellement d'éduquer aujourd'hui les communautés ou les clients vers d'autres modes de consommation. À ce moment-là, donc, j'ai réfléchi à ce nouveau projet qui, en 2013, m'a fait monter et fonder Maison Standard. C'est un projet qui m'était très cher parce qu'il mêlait de la transparence, de l'éthique et qui m'a emmené vers un nouveau projet, enfin entrepreneur. Je suis donc devenu entrepreneur en 2013 et j'ai développé Maison Standard pendant 6 ans. Et ensuite, j'ai laissé la maison entre les mains d'un actionnaire, Expérience Capital, qui continue aujourd'hui de le gérer. J'en suis sorti et j'ai, depuis la période du Covid, réfléchi à des nouvelles façons de travailler.
Pareil, c'est un incroyable nombre de gens. Le Covid a révolutionné la vie de beaucoup de gens. Et c'est là que tu as créé
Annie Jeans.
Voilà.
Annie Jeans est née, oui, un peu d'une réflexion
confinement. Pendant le confinement, c'est ça?
Ouais. C'est-à-dire que ma réflexion était déjà très mûre et mon départ de Maison Standard était très lié aussi à une envie de radicaliser le propos, de radicaliser le projet et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, encore plus éthique. D'une certaine manière, je me suis aperçu qu'il y avait une difficulté à continuer, à poursuivre notre métier dans la mode, comme on a tous pensé à un moment donné. Beaucoup de gens ont parlé du monde d'après, par exemple. On a tous pensé que c'était difficile de continuer le même modèle économique qu'avant. Maison Standard était déjà le sujet de changer la façon de consommer. Pour autant, on construisait encore du nouveau, on fabriquait des stocks et on gérait les difficultés, les dysfonctionnements qu'une marque qui se développe connaît aujourd'hui, et j'ai voulu essayer d'y répondre d'une manière différente, alternative. J'ai l'impression que j'ai construit un laboratoire créatif qui pose des questions plus qu'apporte des réponses, mais c'est tout le sujet d'un domaine qu'on ne fait que démarrer à explorer.
Alors, juste une petite parenthèse, pourquoi Annie ?
Annie, c'est le nom de ma mère, et Annie, qui est un prénom que j'aime énormément, a aussi, pour moi, une signification forte. Annie tourne autour de l'économie circulaire, autour de la récupération, autour du sans-gâchis, en fait autour de valeurs que j'ai depuis longtemps et que je voudrais partager, que d'autres aussi partagent comme moi avec leur communauté. Et il m'a semblé important de rappeler que ce n'était pas une révolution, le circulaire, que ce n'était pas l'objet d'un changement dramatique de valeurs. Au contraire, c'était plutôt un retour ou une réflexion de bon sens sur ce qui nous menait il y a 30 ans et qu'aujourd'hui, on a perdu de vue, c'est-à-dire consommer raisonnablement, avoir quelques objets. Quand on avait des jeans qui étaient endommagés, on les réparait, on les reprisait. Enfin, d'une certaine manière, on ramenait toujours quelque chose à... On peut le réparer. Un objet peut se réparer, peut durer. Et nos parents ont des objets qu'ils ont depuis 30 ans, 40 ans, des montres, des vases, des vaisselles, des vêtements, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je crois, de nous-mêmes, des générations de nos enfants.
Déjà, il y a aussi de moins en moins d'artisans. Regarde les cordonniers, il y en a de moins en moins.
C'est vrai.
Il y a de moins en moins de couturiers.
C'est vrai. Ben oui, le fait main, le fait localement a un peu disparu en 30 ans. On a tous été tentés d'acheter dans les nouveaux modèles qui, dans la fast fashion ou dans des nouveaux créateurs, nous emmener vers une consommation plus frénétique. Et évidemment, je crois beaucoup que l'offre des marques et la proposition des marques influent et impactent sur le comportement des consommateurs. D'où la responsabilité des marques, peut-être, à changer de paradigme.
Alors toi, tu as carrément innové. Tu achètes des lots de jeans que tu transformes.
Oui. Annie, c'est une marque de jeans. Et pourquoi le jean? Parce que j'ai voulu parler de sans gâchis, j'ai voulu parler de récupérer et j'ai voulu parler de recyclage et de transformation. L'idée maîtresse du projet consiste à ne pas produire de matière, à ne plus produire de coton, par exemple, puisque c'est le coton qui fait le jean. Et donc, pour rester là-dessus, je me suis intéressé évidemment au denim, qui est non seulement le produit le plus universel, mais également le produit qui est le plus polluant dans la mode. Pour travailler sur le jean en me disant « tu ne produiras plus de coton », j'ai trouvé deux voies. Une qui est le vêtement usé, le jean vintage, le Levi's, que je régénère et que je source et que je trie.
Alors que tu régénères pour le mettre à des formes actuelles, c'est ça?
C'est ça, oui.
On va en reparler.
On va en parler, bien sûr, mais en tous les cas, il y a deux façons de voir les choses. Il y a à la fois le jean usé, le jean vintage, le produit même qu'on récupère et qu'on transforme, qu'on régénère, et je vais expliquer comment. Et il y a de l'autre côté ce qu'on appelle le dead stock, un mot un peu bizarre, un mot un peu barbare, un mot anglais en tout cas, qui veut dire stock mort, stock en fait, mort, ouais. Mais qui veut dire chez nous matière récupérée ou lot de rouleaux, fin de rouleaux, chute de matière. Un certain nombre de gens utilisent ce type de terminologie, pas facile. Et en plus, il y a une ambiguïté sur les stocks parce que beaucoup de filateurs créent des stocks qui sont ensuite reconduits. Donc là, je parle vraiment de stocks qui sont annulés, qui sont abandonnés et qu'on va récupérer là où on peut, c'est-à-dire dans les usines, chez les filateurs et chez les partenaires en général, qui peuvent être des marques par exemple. Donc, à partir de la matière, on peut reconstruire, à partir de rouleaux, des produits qui ont l'air neufs, mais qui ne le sont pas, puisqu'ils sont faits essentiellement, soit exclusivement, soit à 95% de matière récupérée, donc qui avait déjà été produite avant que j'engage ma fabrication.
Mais tout a été très, très rapide, parce que tu as eu l'idée pendant le confinement. Tu lances une campagne Ulule en juillet, oui. En plein été.
En plein été, c'était la meilleure
idée. Ça, j'avais dit que ce n'était pas la meilleure idée de la Terre, parce qu'on s'était parlé à ce moment-là. Mais ça a bien marché.
Ça, on a réussi.
Tu t'es retrouvé chez Merci début septembre.
C'est vrai. Début septembre, on a commencé un pop-up parce qu'il y avait une exposition sur Fabriquer en France. Et Merci nous a abordé pour intégrer une offre mode qui n'était pas l'objet de leur exposition, qui était autour essentiellement de la maison, avec maison et objets. Et oui, donc Merci nous a offert une première vitrine que j'ai beaucoup appréciée.
Alors, tes jeans, on revient aux jeans. Donc, tu prends un jean, donc chaque jean passe entre les mains d'artisans.
Absolument. On est dans un métier d'artisan. La première chose pour travailler les jeans, ça a été, et c'était un objet difficile, c'était le sourcing. Trouver les bons jeans. Alors, en deux mots, le marché du jean vintage, il est organisé de manière très simple. Il y a Levi's et les autres marques. Quand on va chercher dans des entrepôts grossistes de fripe, c'est-à-dire tous ceux qui fournissent aujourd'hui en France et à l'étranger les friperies, vont être concentrés. Il y en a 3-4 acteurs importants en France, notamment Eureka Fripe, Stock Vintage à Marseille, etc. Ils sont tous connus et tout le monde va vers eux. Le problème, c'est que
C'est-à-dire que toutes les boutiques de friperie qu'on voit dans Paris ou autres vont se fournir là.
Kilo Shop, Kili Watch et tous ceux qui sont en province se fournissent chez 2-3 acteurs en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve à peu près les mêmes produits, oui. Que ce soit dans le jean, dans le militaire, dans le t-shirt, etc. C'est toujours pareil. Revient ensuite aux friperies de sélectionner, d'éditer, de transformer éventuellement, ce qui est assez rare, et de merchandiser de manière différente.
Et juste une question, eux, ils les récupèrent où, ces jeans?
Alors, ils les récupèrent en général en Europe ou aux États-Unis. La Hollande et les États-Unis restent deux fournisseurs très importants. Ils arrivent par bateau, donc on parle de recyclage et de produits qui ont été jetés ou laissés abandonnés par des particuliers, récupérés par des acteurs professionnels qui font de leur métier du grossiste vintage, de la fripe, et ils vont les conditionner par catégorie de produits. Pour ce qui est du jean, par exemple, ils les conditionnent par catégorie et par marque, en fonction de leurs états, en fonction de leur teinte ensuite. Et on va retrouver donc chez ces grossistes des lots aléatoires. Je dis bien aléatoires parce que dans le jean, on retrouve essentiellement des tailles hommes et beaucoup de mélanges mélange de qualité, de toiles d'été ou de toiles d'hiver, etc., et de production.
Ah, donc c'est ça, aléatoire, c'est-à-dire qu'on sait
c'est
pas
ça,
trop.
C'est des jeans qui ont été faits soit au Vietnam il y a 30 ans, soit au Bangladesh il y a 40 ans, soit aux États-Unis il y a 25 ans. Il y a beaucoup d'origines différentes et de toiles différentes, ce qui rend le sourcing de ce jean difficile. Et je disais tout à l'heure, il y a les Levi's et les autres, et dans les Levi's, il y a les 501 et les autres. Moi, je me suis intéressé aux 501.
Parce donc, que 501.
Oui, moi j'ai commencé par ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma ligne, je voulais absolument avoir déjà un objet iconique, et le 501 pour moi en est un, par sa toile, par sa façon de vieillir, par sa forme aussi, qu'on peut travailler, et j'avais besoin aussi quand même d'avoir une forme de modèle, c'est-à-dire qu'on peut aborder l'upcycling de manière très très aléatoire et artisanale, pour autant, si on commence avec une bonne base, c'est-à-dire le 501, qui a toujours une toile qui tient, qui a toujours une forme qu'on peut reconditionner, ça va nous aider. Si on mélange les toiles, si on mélange les formes, si on mélange les travaux, l'artisan est complètement perdu, il fallait donc un repère pour ça, et aussi un repère pour le client, qui lui-même admire le 501.
Oui, puisqu'il y a aussi l'étiquette.
Absolument, je la laisse.
Oui, oui. Tu as demandé à Levi's ?
Ah oui, on s'est rapproché de Levi's pour travailler avec eux et ils nous ont autorisé bien sûr à exploiter. Tu sais qu'on peut tout à fait travailler le vintage et toutes les friperies dont je parlais à l'instant sont autorisées sans demander d'ailleurs d'accord des marques à exploiter la distribution de produits vintage parce que lorsque le produit est déjà d'occasion dans l'Union européenne, il est libre d'être commercialisé à nouveau. Pour autant, si on transforme le produit, là on touche à la marque et au copyright et donc il y a effectivement une autorisation nécessaire. Je me suis rapproché de Levi's et ils m'ont largement autorisé à exploiter le sujet.
Alors tu les mets, j'ai vu ça, tu les remets d'actualité. C'est-à-dire, tu leur donnes des formes plus originales, tu leur donnes des couleurs.
Ouais. Ouais, c'est vrai que en fait, la question qu'on s'est posée tout de suite sur le Levi's et sur l'upcycling en général, c'est de dire qu'est-ce qui fait pourquoi on fait l'upcycling ? C'est parce qu'on estime qu'il y a des produits qui existent sur le marché, qui sont disponibles et qui méritent d'être remis en valeur. Un Levi's 501, quand je le vois plié, il est magnifique. Pour ceux que je sélectionne, j'entends. Il y en a beaucoup qui ne sont pas beaux et que je mets de côté ou que je n'achète plus parce que mon tri et ma sélection a changé. Aujourd'hui, j'ai des nicheurs de vintage qui sont des gens qui sélectionnent beaucoup mieux que des entrepôts que je viens de citer, des jeans d'une qualité extraordinaire avec des tailles qu'il me faut absolument. Pour autant, quand je les vois pliés, ils sont magnifiques. Quand je les ouvre, ben, la jambe, elle est toute droite, elle est très large. Elle a été souvent retouchée parce qu'ils ont 30 ans et donc ils ont appartenu à plusieurs personnes. Elle a été reprisée parfois. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui ne vont plus. La forme ne va plus. On a évidemment toujours envie d'un jean droit, mais pas droit comme ça, pas aussi large. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à prendre un produit mythique, iconique, et de le rendre à nouveau désirable, à nouveau sexy, par une nouvelle forme, par un coup de frais, et surtout par en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, en 2021 ou en 2022, c'est quoi un jean Levi's retravaillé ? Ben voilà, c'est quoi ?
C'est quoi le jean, jean de 2021-22 là,
c'est
quoi ?
Des coupes dont on a envie, c'est des barrels un peu larges, c'est des coupes mom, c'est aussi des jeans droits, bien sûr.
Taille haute.
C'est des tailles hautes en général, bien sûr des tailles hautes. Et c'est des jeans qui ont été, qui montrent un travail, qui montrent une distinction. En fait, pour moi, l'angle, c'est des jeans uniques. C'est-à-dire, à partir du moment où on travaille une création en amont, sur des modèles qui sont designés, je fais des color blocks, on fait des color wash, c'est-à-dire on travaille la couleur et on apporte un petit peu de vieillissement sur une toile. Et tout ça, c'est fait à Paris ou en région parisienne. On travaille ensuite la coupe sur un nouveau patronage et on travaille un certain nombre de détails, de finitions, comme l'ourlet en bas ou le frangage sur les côtés. On met en avant les coutures, on met en avant l'envers de la toile. En faisant ça, finalement, on met en avant tout ce que les gens, tout ce que nous on aime dans le jean, c'est-à-dire la beauté de la toile, le côté brut, la couture extérieure et le côté parfois vieilli et les traces du passé. Un beau jean qui a des traces du passé, qui en plus a une bonne coupe, c'est quelque chose qui est très désirable aujourd'hui.
Et on sait que le jean que l'on porte est unique.
Il est unique pour plusieurs raisons. Il est unique parce qu'il a été travaillé de manière artisanale par des mains d'un artisan au
cœur
de Paris. Ouais. Et c'était un effort qu'on a fait que je trouvais important. L'économie circulaire nous mène vers ce type de jeu, c'est-à-dire qu'on peut être circulaire et dire je vais chercher un jean en France et ensuite le faire travailler à l'étranger et reconditionner à l'étranger, ça serait vraiment dommage. Donc moi ce que j'ai fait, et ça a un coût, c'est de le faire à Paris, dans notre atelier. J'ai construit un atelier au sein de mon studio avec trois machines. J'ai recruté des couturières et des couturiers qui viennent quotidiennement chez nous pour travailler à la commande, custom made, comme on dit, des jeans Levi's qui sont commandés par un client, qui choisit sa toile, qui choisit sa coupe et évidemment sa taille.
Il faut combien de temps pour avoir un jean ?
Mais ça dépend de la charge de notre atelier, mais disons qu'aujourd'hui, on peut le fabriquer et le livrer en 10 jours.
Donc en plus, il y a un effet de désirabilité.
Oui.
Tu rends l'objet désirable.
On le rend désirable, on lui apporte aussi une étiquette où il a un numéro de série, et donc on précise qu'il est unique, parce qu'en fait, même un modèle Mom en bleach, et je le fais en petite série, ou un color block qui a la même définition, c'est-à-dire que c'est un mélange d'un noir et d'un bleu, ça ne sera jamais le même noir, ça ne sera jamais le même bleu, les traces qu'ils ont du passé restent évidemment, et donc deux jeans sont absolument différents, même s'ils sont sur le même modèle, contrairement au neuf.
Alors, c'est les prix, ça aussi.
On commence à 120 euros sur un jean de base.
Ce qui n'est pas, quand on voit tout le travail qui est fourni, ce n'est pas excessif.
Ben, ce n'est pas excessif. Un jean nous coûte 20 euros à l'achat, ce qui est cher, parce que c'est un jean sélectif qui a déjà une bonne base. Donc, le jean vintage nous coûte 20 euros. Il est ensuite travaillé pendant entre 1h30 à 3h à Paris par des couturières. Et on lui ajoute un certain nombre d'éléments qui font, par exemple, si c'est de la couleur, qui ajoutent au coût. Et donc, tout ça emmené ne nous emmène pas vers des marges phénoménales, mais on est en direct avec notre client. On essaye de faire un travail artisanal et je comptais beaucoup parce que l'expérience de Maison Standard m'a marqué là-dessus, travailler un produit accessible, c'est-à-dire que c'est important pour moi de ne pas être dans l'objet du upcycling qui est hors de prix. Je voulais que l'upcycling soit normé et soit un peu standardisé.
Et logique aussi, du coup.
Oui.
Non, mais logique n'est pas le terme, mais faire de l'upcycling raisonnable et raisonné, c'est ça.
Exactement. Je pense qu'il y a un effet quand on voit un produit vintage à se poser la question de sa valeur. Je voulais qu'il résonne et qu'il soit compris par le client. Je voulais aussi que les générations plus jeunes puissent se l'approprier en me disant, tiens, finalement, les jeans transformés, les Levi's transformés, ça parle beaucoup aussi aux jeunes de 20 ans et j'avais pas envie que ce soit
inaccessible.
Et donc, on commence à 120 euros, on finit à moins de 200 euros sur les jeans les plus travaillés qui ont pris 3 heures de travail sur un jean, par exemple, qui mélange deux jeans recyclés, 3 heures de travail. Là, on se retrouve à 175 euros, par exemple. Mmh.
Oui, quand tu vois que c'est Céline qui vend ses jeans, combien, 400 ou 500 euros, je crois.
Oui, au moins, je pense.
Bon, on va pas critiquer la concurrence. c'est même pas de la concurrence à ce niveau-là. En plus, toi, tes jeans sont garantis à vie. Alors, explique-nous le concept, là. Ouais.
Garantie à vie, ça peut paraître un bluff, comme ça, quand on en parle, ou un objet marketing. Et en plus, c'est l'objet d'un travail qui reste à venir pour nous, pour l'unique raison déjà que pour faire la garantie, il faut que le produit se vende et qu'ensuite, il puisse revenir. Pourquoi j'ai parlé de garantie et à vie? Parce qu'en fait, le produit que je prends et que j'utilise est une ressource qui existe déjà, qui a déjà vécu. Mon sujet pour moi, c'est d'apprendre et de créer un mouvement avec Annie autour de la récupération et du sangashi. Et je veux absolument commencer par l'éducation de notre communauté, des clients et de nous-mêmes sur l'idée qu'un produit n'est jamais vraiment mort et qu'il peut revenir. Je voulais que les clients puissent se dire, un, la qualité qui a été faite par l'artisanat parisien chez Annie est de bonne facture, et s'il y avait un défaut, s'il y avait un problème, il pouvait revenir pour être réparé. Donc je vois en fait mon atelier comme un repair shop, une plateforme qui peut accueillir les clients qui ont un problème sur leur jean et qu'on répare, parce que ça leur permet de sortir un jean de leur placard et de le porter, et donc de lui rapporter de la valeur plutôt que de le planquer. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens ont des jeans ou des pantalons qui sont de côté parce qu'ils ont un petit défaut et qu'on ne peut plus ressortir. Donc je voulais répondre à cette question-là, et puis je voulais aussi montrer qu'à la fin, quand on parle de recycler, de recyclable, etc., il n'y a pas d'embrouille. Le recyclable, c'est quand la marque permet au client de le recycler. Et donc, je voulais créer les conditions d'un retour du produit et d'une réparation.
Alors, quelles sont les conditions ?
Ah ben, les conditions, elles sont simples. C'est qu'à partir du moment où la garantie, elle couvre quoi ? Elle couvre les défauts de la matière ou les défauts de la confection, si nos coutures ou notre réparation, notre transformation n'a pas tenu dans un usage normal, on le prendra, on l'échangera ou on le remboursera. Par contre, évidemment, si tu as fait du vélo ou du foot avec et qu'il est déchiré dans tous les sens, il y aura évidemment une réflexion à savoir qu'est-ce qui s'est passé. De notre côté, on est là aussi pour accompagner le client. Donc, on pourra toujours proposer une réparation, même à faible coût, lorsque ça sortira du village.
Donc, en fait, tu vas créer des boutiques ateliers. J'imagine que c'est ça ton...
Oui, on en a déjà une qui doit, elle, se développer et fonctionner. Mais effectivement, l'idée du modèle, c'est une boutique qui est un repair shop, qui est un atelier au sein duquel on crée, on transforme sur place. Donc, il y a évidemment quelque chose de très local dans chaque boutique.
Elle est où, ta première boutique ?
Elle est au 56 rue du Louvre. Donc, on est vraiment à côté de la rue d'Argout, dans le quartier d'Étienne-Marcel.
Et j'ai vu que tu ambitionnais aussi de faire des t-shirts.
Oui, c'est vrai que alors moi, le t-shirt ou d'autres produits, en fait, j'ai très envie que le vestiaire se développe autour du jean, à la fois pour que l'univers de la marque Dany puisse s'exprimer autrement, puisse créer une silhouette, et également pour finalement que le modèle économique Dany, qui repose pour l'instant dans ce que je viens de raconter sur la transformation de jean usé, puisse aussi se développer de manière intelligente, à la fois sur le plan du modèle économique et aussi sur le plan du modèle commercial. Commercialement, je pense qu'un certain nombre de gens sont toujours intéressés par l'écho de la récupération et pour autant pas forcément du vintage. C'est-à-dire qu'il y a une autre voie, celle que j'évoquais tout à l'heure, celle du dead stock, de la matière récupérée, qui est extrêmement intéressante et qui nous permet aujourd'hui d'aller chercher des fins de rouleau pour construire des nouveaux jeans ou pour construire des nouveaux produits. Et donc, j'ai créé un réseau d'usines qui sont soit en France, soit en Europe. Le t-shirt, je vais le faire en Bulgarie. Je travaille sur un jean dead stock Annie Jeans au Portugal. Et c'est vrai que la matière récupérée, elle est intéressante parce qu'elle nous permet une plus grande liberté créative. Les contraintes sont moins définies à l'avance et donc on peut effectivement créer une gamme de produits faits à partir de la matière récupérée.
Et des vestes en jean aussi.
Évidemment, des vestes en jean. Pour l'instant, je travaille sur le blouson Levi's que je veux customiser.
Voilà,
et transformer.
C'est ça, j'allais dire. Le blouson Levi's
Disons, au mois de décembre, on aura des bons blousons customisés qui seront dans des tailles uniques parce qu'ils sont tous un peu L ou XL, mais c'est dans un mood qu'on veut acheter. Et aujourd'hui, on peut en sourcer. Je les source une par une et elles sont toutes assez belles déjà dans leur patine.
Toi, ta forme préférée en jean, c'est laquelle?
Pour l'homme ou pour la femme?
Pour toi.
Pour moi, j'aime beaucoup le dad jean en ce moment. C'est un modèle qu'on est en train de développer et qu'on va sortir bientôt, qui est un modèle un peu carotte, qui pour un homme comme moi de mon âge, me permet de travailler confortablement. J'aime plus les slim et je suis assez confortable dans les coupes, soit droite, soit un peu carotte.
Le slim est-il mort pour toi?
Non, le skinny est mort, mais le skinny est-il mort? C'est un vrai sujet sur lequel je ne m'avancerai pas, je ne suis pas rédacteur en chef.
J'en ai parlé, moi, c'est pour ça que je te pose la question. Et certaines femmes n'étaient pas d'accord, beaucoup croient encore au skinny.
En fait, c'est difficile quand on dit que quelque chose est mort, une tendance est morte, on a l'impression que c'est pour toujours. On sait, toi et moi, que le retour des choses se fait un jour et qu'on ne l'attendait pas forcément. La tendance des 90s est très présente aujourd'hui. Évidemment, quand on observe aujourd'hui...
Il y a un peu un effet nostalgie, je pense, avec les 90s aussi.
Absolument, bien sûr. Mais en tous les cas, il y a un effet de large et de confort qui est évident. Et ce que je trouve intéressant dans le jean, c'est que le jean aborde tous les sujets. Il peut être street, il peut être couture, il peut être sport, il peut être formel. Et c'est ça que j'aime le plus dans le jean, c'est qu'il est universel. Donc, on peut aller vers beaucoup de choses. En fait, moi, j'aime beaucoup de formes dans le jean parce que beaucoup de formes correspondent à des styles très différents. Et je peux apprécier en fait un certain nombre de formes chez la femme qui sont toutes aujourd'hui très désirables. Pour autant, elles ne sont pas forcément uniques.
Quel conseil donnerais-tu justement à une femme qui cherche encore le jean de sa vie? Parce que ça, c'est un vrai débat chez beaucoup de femmes. Le jean de sa vie.
Le premier conseil que je donnerais, c'est de venir nous voir chez Annie. Non, parce qu'en fait, je pense que si je devais donner un conseil à des femmes qui cherchent le jean de leur vie, c'est qu'en général, la recherche n'est pas facile. Il y a tellement d'offres que j'imagine qu'elles ont déjà beaucoup vu et porté de jeans. Et si elles le cherchent encore, c'est parce qu'elles ont peut-être un rêve, comme on cherche parfois l'homme idéal, la vie idéale pour vivre. On est tous en recherche de quelque chose. Parfois, certains cherchent même le bonheur. On ne le trouve pas toujours au coin d'une rue. Le jean idéal se trouve finalement dans l'acceptation de son corps, je crois, dans l'acceptation de sa morphologie et dans la mise en avant d'une silhouette nouvelle dans laquelle on est bien. Moi, je suis bien dans mon jean parce qu'en fait, je l'ai adopté comme un uniforme. Et je crois qu'on arrive un peu à ça. Chez Standard, j'ai beaucoup utilisé l'exploration de l'uniforme et du produit qu'on porte tous les jours de manière presque obsessionnelle. Et moi, ça m'intéresse de voir qu'aujourd'hui, en tous les cas, en vieillissant, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses qui nous vont et on doit l'entendre et l'écouter.
C'est très intéressant. Est-ce que tu relierais ça à l'élégance? Parce que je termine toujours mes interviews sur l'élégance.
Oui, je relierais ça à l'élégance parce qu'il y a une forme d'élégance dans l'idée de s'accepter et de se montrer tel qu'on est. La tendance du naturel, moi, me plaît beaucoup. J'aime les hommes et les femmes au naturel. Et je trouve que quand on s'accepte, du coup, notre attitude, notre posture, notre façon de faire avec les autres et de se montrer change évidemment. Et pour moi, l'élégance, c'est aussi une forme d'honnêteté.
Et peut-on être élégant en jean?
Bien sûr, on peut être élégant en jean. Je crois qu'on le voit tous les jours. On peut être élégant en jean parce que le jean peut se porter de manière très formelle ou ici, il peut être créatif, il peut être original. et il peut être aussi très, très, très pur et très épuré. Donc, ça me paraît absolument possible depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs.
Ben, merci à toi, Uriel.
Merci beaucoup, Valérie.
Pour ce voyage dans le Denim.
Merci d'avoir accueilli.
Merci à vous, chers auditeurs, et merci à Le Bon Coin, partenaire de cette émission.
Ah, merci à Le Bon Coin, que j'apprécie beaucoup et qui m'a accompagné sur toute ma campagne du Lune.
Oui, ça, c'était vraiment le pur hasard. Et on salue Caroline Grangier, qui se reconnaîtra.
Caroline.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.